Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les vacances deviennent un piège, un texte de Mathilde Warright, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. L'inceste demeure un grand tabou au Québec. Pourtant, la meilleure façon de le combattre est d'en parler, estime Mathilde Warright, et le début des vacances est une période judicieuse pour le faire. Mathilde Warright est administratrice en éducation et membre du Brave Movement, un mouvement mondial de survivants et survivantes cherchant à mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants. La fin de l'école, les jeux d'eau, les camps de jour, les valises prêtes pour le chalet. Au Québec, ces images d'Épinal cachent une autre réalité. Une fille sur cinq et un garçon sur dix déclarent avoir été victime de violences sexuelles avant 18 ans et dans 40 % des cas, l'auteur présumé est un membre de la famille. Pour ces enfants, les vacances ne sont pas un répit. Elles sont un huis clos. Derrière les sourires figés sur les photos de famille, des enfants vivent l'indicible. Quand les écoles ferment, que les repères s'effacent et que les regards extérieurs disparaissent, l'environnement familial peut devenir un lieu de danger accru. C'est souvent dans ces moments que les actes incestueux se perpétuent à l'abri des regards, au cœur même de ce que la société considère comme un espace de sécurité. L'inceste, ce mot que l'on évite, ce mot qui dérange, qui salit, qui fait peur. Ce mot que l'on préfère taire alors qu'il détruit des vies. Pourtant, il est là. Il vit dans les silences familiaux, les résidences privées, les chambres d'amis. Mais enfin, on le connaît, William, prénom fictif. Il est vraiment fin et tellement sweet avec les enfants. William, c'est pas un monstre. Et c'est vrai, William n'est pas un monstre. C'est un homme ordinaire, un proche, un homme apprécié, un homme normal. Et c'est précisément cette banalité qui rend l'inceste si difficile à nommer, à croire, à dénoncer. Le silence tue. Pour protéger la société de William, il faut porter ces mots dans l'espace public. Inceste, violence intrafamiliale, violence conjugale. Il faut les nommer, il faut les crier, car le silence est une violence. Ce silence tue. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout. Au Canada, seulement 5 à 6 % des agressions sexuelles sont signalées à la police chaque année, selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Cela signifie que l'immense majorité reste dans l'ombre, étouffée par la peur, la culpabilité, la sidération ou l'impossibilité de parler quand on est encore sous emprise. Certaines voix ont récemment commencé à briser l'omerta, comme Coralie Léveillé, qui a eu le courage d'accuser publiquement d'inceste son père, Giovanni, ou plutôt Jean-Claude Apollo. En le faisant, elle a mis en lumière ce que tant d'autres vivent en silence, l'inceste comme angle mort des politiques publiques. Sa voix est essentielle, mais elle ne doit pas rester isolée. Elle doit résonner dans nos institutions, nos médias, nos écoles, jusque dans nos salons. Il est temps que le Québec sorte du déni. Il est temps que l'inceste devienne un enjeu politique majeur. Il faut faire connaître les conséquences, les multiples pathologies au quotidien, les addictions, le stress post-traumatique, les troubles dissociatifs, dont le trouble dissociatif de l'identité, TDI, les troubles alimentaires, les dépressions sévères, les pensées suicidaires, les tentatives de suicide, les suicides. Il faut aussi former les professionnels à ces réalités complexes. Enseignants, médecins, intervenants sociaux, personnel scolaire, policiers, tous doivent être sensibilisés et préparés à repérer les signaux faibles. Les ressources spécialisées doivent être financées, les espaces sécuritaires créés dans les écoles, les hôpitaux, les foyers d'accueil. Et les psychologues doivent être formés au trauma complexe pour que plus aucune survivante et aucun survivant ne soit renvoyé à son propre isolement. Car les vacances, bien loin d'être un moment d'insouciance pour tous, sont une période à haut risque. Plus de proximité, moins de supervision, moins de vigilance institutionnelle. C'est donc un moment clé pour en parler. Nous devons briser le silence médiatique et faire pression sur les élus pour exiger des politiques ambitieuses, courageuses, informées. Car tant que l'inceste demeure tabou, il reste un terrain de jeu fertile pour les agresseurs. Brisons le silence tenace pour libérer la parole, pour créer des prises en charge adaptées, pour prévenir, pour informer, pour protéger. Nommer l'inceste, c'est refuser la complicité. Tant que nous nous taisons, nous participons. C'était « Quand les vacances deviennent un piège », un texte de Mathilde Warheit, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
De la glace conservée pendant 20 jours sans refroidissement. Un texte de Valérie Simard, paru le 2 août 2025 dans la presse. Conserver plus de 300 kg de glace sur un total de 800 sans système de refroidissement pendant 20 jours. C'est le défi qu'ont réalisé des étudiants en génie à Montréal sous la chaleur extrême de juillet. Une prouesse qui démontre qu'il est possible de bâtir autrement en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments. La météo a donné chaud aux participants de l'Ice Box Challenge, un concours d'origine belge qui était organisé au Québec pour la première fois. À 8 reprises pendant les 20 jours du défi, le mercure a dépassé les 30 degrés Celsius. « J'ai stressé à propos de ça pendant tout le mois », raconte Mathis Garrig, membre de l'équipe CryoCOBS de l'Université Concordia. « Pendant les journées les plus chaudes, je vérifiais la température à l'intérieur de la boîte. » Bien que l'équipe se soit préparée en basant ses calculs sur les températures des 3 dernières années, les journées de chaleur extrême ont eu un impact sur les résultats, pense l'étudiant en génie civil. Sous les micro-bâtiments, installés au Vieux-Port de Montréal, l'eau s'écoulait au compte-gouttes pendant la dernière semaine de la compétition. Si les néophytes auraient probablement préféré parier sur les chances du Canadien de gagner la Coupe Stanley que sur celle qu'il reste une once de glace dans ses petites cabanes, les participants, eux, étaient confiants. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait faisable. Il suffisait d'avoir suffisamment de personnes et de l'organisation pour que cela se produise, déclare Andrés Severin, co-capitaine de l'équipe du club Habitech de l'École de technologie supérieure, ETS. Soumis à plusieurs critères. Le 10 juillet 2025, les deux équipes ont installé leur micro-bâtiment sur la promenade du Vieux-Port. Elles avaient certains critères à respecter, soit le volume du bâtiment, 2,5 mètres par 2,5 mètres par 2,5 mètres, l'installation d'une fenêtre, l'accessibilité des matériaux et un budget maximal de 10 000 $. À l'intérieur de chaque structure, 6 blocs de glace, totalisant 805,5 kg, ont été déposés. Le 29 juillet 2025, les structures ont été démontées et la glace pesée. Dans le bâtiment conçu par l'équipe de Concordia, 386,4 kg de glace, soit 47,3%, avaient été conservés. Du côté de l'ETS, 333,8 kg, 40,9% de glace, étaient encore présents. Si la quantité de glace conservée était un des critères d'évaluation, ce n'est pas le seul. La qualité du rapport technique, les idées de conception, l'esthétisme du bâtiment et son éventuelle réutilisation étaient aussi pris en compte. Si bien qu'au terme des délibérations, les jurys ont déclaré un match nul. Les juges ont reviré ça de tout bord tout côté. Ils ont essayé de donner plus de poids à tel critère, mais on revenait toujours à un scénario de parfaite égalité, relate Sébastien Jacquet, instigateur du concours et chargé de cours à l'ETS. Les résultats en termes de conservation de glace sont comparables, selon lui, à ceux des Icebox Challenge tenus ailleurs. Des bâtiments résilients. Les deux bâtiments, munis d'une petite fenêtre à triple vitrage, ont été orientés de manière à réduire leur exposition au soleil. Un mur plus bas a été érigé côté sud. C'est surtout sur le plan du choix de matériaux pour l'isolation que les constructions se distinguent. L'équipe de Concordia a utilisé principalement de la laine de roche, celle de l'ETS, des panneaux en fibre de bois et de la ouate de cellulose. L'ETS a aussi opté pour un toit végétal. Une troisième structure, fabriquée selon le Code de construction du Québec, a été érigée sur le site. Après deux semaines, il n'y restait plus un gramme de glace et la température intérieure atteignait 26 degrés Celsius. Dans les boîtes des équipes universitaires, la température s'est maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius, note Sébastien Jacquet. Pour les étudiants, ces résultats sont la démonstration qu'il est possible de construire des bâtiments plus efficaces. On espère que l'industrie va prendre cette démonstration et commencer à l'appliquer dans leur construction. Et s'ils ne le font pas, nous continuerons à promouvoir ce type de bâtiment, dit June Aldinucci, capitaine de l'équipe de Concordia. Si nous, les étudiants, on est capable de le faire, je pense que vous aussi, vous l'êtes, interpelle André Severy, qui déplore que le Québec traîne la patte concernant les standards de bâtiments passifs. Son coéquipier, Daniel Haddad, ajoute qu'améliorer l'efficacité des bâtiments est une façon de devenir plus résilient face au changement climatique, lors des pannes de courant, mais aussi dans le contexte où la transition énergétique augmentera les besoins en électricité. L'essence première du Icebox Challenge est de démontrer que les codes de construction qu'on a adoptés dans tous les pays ne sont pas suffisants. On peut facilement faire mieux, dit Sébastien Jacquet. Non seulement en hiver, mais aussi en été. Un bâtiment mieux isolé fait en sorte que si on doit climatiser, on peut utiliser des appareils beaucoup plus petits, beaucoup moins énergivores pour arriver au même résultat que dans un bâtiment qui aurait plus d'entrées de chaleur. L'enseignant indique que l'Icebox Challenge pourrait revenir pour une seconde édition l'an prochain ou dans les années à venir. C'était De la glace conservée pendant 20 jours sans refroidissement, un texte de Valérie Simard paru le 2 août 2025 dans la presse.
Réflexion politique inquiétante. Une chronique de Jean-Marie Nadeau paru le 8 juillet 2025 dans le Moniteur acadien. Il y a moins d'un an, nous avons élu le nouveau gouvernement libéral de Susan Holt sur le plan provincial. Par ailleurs, sur le plan fédéral, nous venons d'élire le nouveau gouvernement libéral de Mark Carney. Tant à Fredericton qu'à Ottawa, je constate que ça bouge beaucoup sur le plan politique, mais ce n'est pas parce que ça bouge que tout est positif. Le gouvernement Holt a erré dans le dossier de l'éducation. Ce fut un fiasco médiatique. Après une levée du bouclier populaire, le gouvernement provincial s'est ravisé dans le dossier. Il a décidé de réduire, de presque la moitié, les coupes annoncées de 47 millions de dollars. C'est une maigre consolation. Pendant ce temps-là, le gouvernement québécois a imité le gouvernement du Nouveau-Brunswick en annonçant aussi des coupures majeures en éducation. Comme chez nous, la grogne populaire contre ces coupes se fait entendre. On ne touche pas à l'éducation, sauf pour la bonifier. La province a aussi mis en branle un processus de consultation publique sur l'avenir d'Énergie Nouveau-Brunswick. Sous le gouvernement Graham, nous avons raté une occasion de rejoindre Hydro-Québec, une des entreprises en électricité parmi la plus saine et rentable au monde. Étant historiquement allergique à tout ce qui est québécois, ce sont surtout les anglophones qui s'y sont opposés à l'époque. Mais certains Acadiens, bien qu'en moins grand nombre, n'y étaient pas favorables non plus. Est-ce que le scénario aurait été différent si l'offre d'achat était venue d'Hydro-Ontario? Il nous semble que dans le dossier de l'énergie, la première ministre Holt empiète sur la consultation publique. En essayant d'inscrire ce projet dans la série des grands projets nationaux de Mark Carney, elle pousse avec force sur l'établissement d'une deuxième centrale nucléaire à Pointe-le-Pro. Il me semble que Mme Holt devrait attendre les conclusions de la commission publique avant de trop prendre parti pour une option possible. J'ai exprimé un préjugé favorable au clan Carney par rapport au clan Poilièvre lors des dernières élections fédérales. Les Canadiens ont surtout décidé que Carney serait meilleur que Poilièvre face au monstre Trump. Le renforcement de la surveillance des frontières était de bon aloi, mais gonfler de façon exponentielle les dépenses militaires pour satisfaire les attentes du voyou Trump est disproportionné. Il a aussi décidé de faire un cadeau de 7 milliards de dollars en enlevant les taxes normalement payées par les grands géants américains du Web. Même Lloyd Axworthy, un des meilleurs anciens ministres libéraux des Affaires étrangères dans l'histoire du Canada, se demande si Carney ne lèche pas trop les bottes de Trump. Axworthy n'est pas un deux de pique, il sait de quoi il parle. Les électeurs ont voté pour Carney contre Poilièvre, parce que ce dernier était trop à droite pour le commun des mortels canadiens. Carney a décidé d'amener le Parti libéral vers le centre droit. Mais jusqu'où va-t-il aller à droite? Il y a péril en la demeure. De plus, Carney n'a pas réalisé sa promesse de réduire de moitié pour le 1er juillet les frais pour traverser le pont de la Confédération. Pourtant, cette promesse touchait directement le portefeuille des citoyens. Nous ne pouvons pas reprocher aux deux nouveaux gouvernements d'être proactifs, mais il faut éviter les débordements et les dérapages. Nonobstant l'accusation de léchage de bottes face à Trump dans le dossier qui concerne notre encombrant voisin, l'implication de Mme Holt et du ministre fédéral acadien Dominique Leblanc mérite d'être soulignée. Le monde politique est continuellement en changement. Sur le plan provincial, nous sommes quand même mieux actuellement sous un gouvernement Holt qu'un gouvernement Higgs, tout comme nous sommes également mieux sur le plan fédéral avec un gouvernement Carney plutôt que l'ancien gouvernement Trudeau, ou encore ce qui aurait pu être un gouvernement Poilièvre. Mais il y a des lumières rouges qui s'allument. Les virages à droite ne doivent pas être trop prononcés. C'était « Réflexion politique inquiétante », une chronique de Jean-Marie Nadeau parue le 8 juillet 2025 dans le Moniteur acadien.
Le règne de l'enfant-Dieu, l'enfant qui fait la loi. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. Après l'enfant-roi et l'enfant-tyran, l'enfant-Dieu? C'est ainsi que la psychologue belge Diane Drory nomme les enfants
à qui les parents obéissent et ne refusent rien. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans les années 1980, on a vécu le règne de l'enfant roi, un enfant dont les besoins étaient vite comblés et qui ne tolérait pas les frustrations. C'est un enfant qui s'opposait aux parents, ce qui constituait un progrès, estime en entrevue téléphonique Diane Drury, psychologue et psychanalyste belge, qui évoque le nouveau phénomène qu'elle a appelé « les enfants dieux ». Selon elle, au fil des ans, l'enfant est devenu le centre de la famille. Dans une société anxiogène, où les couples se séparent et où on peut perdre son travail, le lien qui dure est celui de l'enfant. C'est le lien de réassurance. Les parents n'osent plus mettre de limites, car cela constitue un frein à son épanouissement. Il dit bonjour et merci seulement s'il en a envie. On est dans la bienveillance en tout temps, car il ne faut surtout pas brimer l'enfant tyran qui est sans cesse dans la négociation, car tout se négocie avec lui, explique-t-elle. Et c'est là que l'enfant Dieu apparaît, en nombre croissant, selon elle. C'est un enfant qui règne, qui fait la loi. On lui obéit, on suit ses préceptes. L'enfant Dieu est au-dessus des parents et il y a une inversion des responsabilités. Les parents demandent à leurs enfants de 3 ou 4 ans « Es-tu d'accord de partir en vacances? » Le problème, c'est que ça devient un enfant mal adapté à la réalité. Ce qui signifie qu'il est mal dans sa peau, impulsif, narcissique. Il manque d'empathie, il ne peut pas fonctionner et est incapable de raisonner, estime Diane Drury. Nadia Gagné, psychologue conférencière, ne pensait pas que la société irait jusque-là. Elle observe que, souvent, les parents ont du mal à faire de la discipline, car ils veulent être amis avec leurs enfants. La parentalité bienveillante est un idéal, mais elle n'est pas réaliste, car tôt ou tard, l'enfant sera désobéissant et le parent devra mettre des limites. L'enfant doit avoir un cadre, et dès le CPE, il aura des règles à respecter. Les parents doivent être, en quelque sorte, représentatif du monde qu'il va devoir affronter à l'extérieur. Un avis que partage le psychologue Marc Pistorio, qui nous rappelle que l'éducation des enfants doit comporter deux dimensions, l'affection et les principes. On ne peut pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Les parents doivent être ceux qui décident et doivent émettre un cadre. Sinon, on sera dans une éducation qui n'est pas structurante pour l'enfant. Il pense que le parent peut s'adapter au tempérament de l'enfant. Des enfants testent sans cesse les limites, alors que d'autres, beaucoup moins. On s'adapte, mais il y a des bases, une chaleur affective, une écoute, où l'enfant exprime ses émotions et des règles à respecter. Le déclin de l'autorité. Marc Pistorio, auteur de « Parents sécurisants, enfants sécurisés », note un déclin de l'autorité des parents, car ce n'est pas très populaire, d'où le problème. Les parents sont démunis et ils attendent qu'on leur donne des solutions. Trop de bienveillance n'est pas de la bienveillance. Il faut dire non à son enfant, mais il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême, celle d'une trop grande autorité. Autre élément, les familles nombreuses étant plus rares, les parents veulent satisfaire leurs enfants et leur éviter toute frustration ou tout affrontement. Les parents surprotègent leurs enfants. Ce n'est pas leur rendre service de balayer les obstacles et de leur éviter de vivre toute difficulté. ils ne sauront pas vivre en société et ne développeront pas leur capacité d'adaptation. Ils doivent aussi apprendre la tolérance, explique Nadia Gagné. Diane Drory lance sur le ton de la plaisanterie que, finalement, avoir un enfant roi, ce n'est pas mal du tout. Un enfant qui s'oppose, ça veut dire qu'il va bien, et ça veut dire qu'il n'a pas peur de ne pas être aimé. On ne s'oppose pas si on craint d'être rejeté, dit-elle. Elle évoque aussi les parents hélicoptères, toujours prêts à intervenir, qui s'inquiètent et qui gardent leurs enfants près d'eux. C'est le culte de l'enfant. On privilégie leur bien-être. On les accompagne partout. Ils ont toujours besoin du regard de leurs parents et ils sont mal préparés à la vie. Elle estime que les parents doivent revenir au bon sens, être cohérents dans leurs paroles, transmettre des valeurs et instaurer une éducation équilibrée. Les enfants doivent sentir qu'il y a un pilote dans l'avion, et c'est le parent, juge Nadia Gagné. Les enfants sont en apprentissage. Les parents sont là pour les guider, explique-t-elle. On se met de la pression dans toutes les sphères de la vie. On se compare sur les réseaux sociaux. Mais les parents ne sont pas parfaits, ni les enfants. On doit être dans l'équilibre, ni trop permissif, ni trop autoritaire, et apprendre à l'enfant à vivre en société, avec toutes les frustrations que cela comporte. Petit lexique parental. Enfant roi. Un enfant qui n'accepte pas qu'on lui dise non, qui proteste, crise de colère incluse, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Enfant Dieu. Un enfant qui est au-dessus de ses parents, qui sont soumis à leur progéniture, à qui ils ne refusent rien, selon Diane Drory. Parent hélicoptère. Un parent qui protège excessivement son enfant pour lui éviter de vivre des situations négatives. C'était le règne de l'enfant Dieu, l'enfant qui fait la loi. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.